Après la trêve hivernale, la galerie Espace Liberté ouvre à nouveau ses portes pour une nouvelle exposition. L'artiste Féa, installée à Saint-Quentin-la-Poterie, nous propose de découvrir les multiples facettes de son travail. Bonjour Féa.
Bonjour Yodande.
Une petite question. Féa, c'est un acronyme. Alors, qu'est-ce qui se cache là derrière?
Alors, Féa, ce sont d'abord mes initiales pour Françoise Escal-Agnan. Et en fait, c'est sorti quand j'ai commencé la gravure dans un atelier d'artistes à Paris. Et chaque artiste avait une boîte pour ranger son matériel. Et sur cette boîte, pour la reconnaître, il fallait écrire quelque chose. Et c'est comme ça que Féa est sortie.
Dans l'exposition que j'ai visitée, que j'ai trouvée sobre, belle, il y a de la gravure, de la peinture, de la sculpture. Dans quel ordre c'est arrivé? Est-ce que c'est arrivé tout en même temps ou bien est-ce que ça a été une découverte progressive?
Alors en fait, je suis rentrée dans le monde de l'art avec la gravure, tout simplement parce que la première fois qu'on a vécu à Paris, en région parisienne exactement, en bas de notre escalier, il y avait un atelier de gravure. C'était un atelier d'artistes. Et ils m'ont accepté, même si à l'époque je n'étais pas artiste, puisque je suis ingénieure de formation. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec la gravure. Et 3 ans, donc ça c'était en 2000. Et 3 ans plus tard, on partait vivre à Madrid. À Madrid, j'ai eu la chance de travailler avec une galeriste au centre de Madrid, et cette galeriste avait un groupe d'artistes très très fort, très sympathique, à l'espagnol. Et lors de ma première exposition dans cette galerie, où je ne présentais que mes gravures, un artiste peintre est venu me voir en me disant « Mais oh, qu'est-ce que tu t'emmerdes avec la gravure, c'est trop compliqué, fais de la peinture, tu verras, c'est beaucoup plus simple. » Et en fait, quelques mois plus tard, je commençais à travailler la peinture.
Et la sculpture?
Et la sculpture, eh ben, en fait, Madrid, ça a duré 5 ans. Et en rentrant à nouveau en région parisienne, j'ai rencontré une femme d'origine espagnole qui était ravie de rencontrer quelqu'un en région parisienne qui arrivait de vivre 5 ans à Madrid et qui m'a dit « Ah, oh, mais moi, je fais de la sculpture dans un atelier libre. Allez, viens avec nous, tu vas te régaler. » Et voilà, je me suis régalée. J'ai commencé la sculpture dans cet atelier, je pouvais faire ce que je voulais. Et voilà, même si beaucoup de personnes travaillaient le corps, le visage, hein, dans un atelier de sculpture, moi j'ai pu commencer la sculpture en travaillant sur le mouvement.
chose que je faisais depuis mes débuts dans l'art et en abstraction. Et donc, voilà, la sculpture est née à Paris aussi pour moi.
Et est-ce que l'installation à Saint-Quentin, la poterie, a joué sur le choix du matériau?
Alors, certainement, mais surtout, moi, c'est mon village, Saint-Quentin-la-Poterie. Je suis née à Uzès, quand il y avait encore la maternité à Uzès.
Ah,
donc, je suis une locale gardoise.
D'accord.
Après, j'ai passé ma vie ailleurs, parce que j'ai passé mon bac à Uzès. Je suis partie faire mes études d'ingénieur à Toulouse. Voilà, mais et j'ai toujours vécu ailleurs, Paris, Nancy, Madrid, Toulouse. Mais Saint-Quentin, c'est mon village. Donc oui, certainement, j'étais là quand il y avait des expositions, je connaissais les céramistes du village, etc. Donc oui, je pense que ça m'a influencée parce que ça fait partie de mes racines.
Parce que lorsqu'on dit sculpture, on a plutôt en tête quelque chose d'un peu massif et travaillé, alors que là, il s'agit de choses très aériennes et dans la matière, c'est la porcelaine.
Oui, principalement la porcelaine. Pas que, mais principalement.
Et d'ailleurs, quand on rentre dans cette exposition, la première fois, ma première impression, j'ai cru que les formes de ce qui s'appelle murmure, j'ai cru que c'était en papier.
Eh oui.
Et donc, je me disais, mais comme tout cet univers est fragile. Et en fait, non, c'était de la porcelaine. Et toutes les autres pièces qui sont aussi en porcelaine conjuguent cette impression de fragilité et en même temps de résistance, de dureté.
De force. Ben oui, bien sûr. En fait, le mouvement, c'est ça. Le mouvement, c'est la fragilité de l'enfant qui va faire son premier pas. Parce qu'il est en déséquilibre, mais c'est aussi la force de cet enfant qui est ancré dans la terre pour pouvoir prendre ce risque et de faire ce premier pas.
Fragilité et force de la vie. Hein.
Ben oui,
voilà.
Bien sûr.
Chaque pièce porte un nom.
Oui.
Comment naît ce nom?
Alors en fait, j'aime beaucoup lire, je lis beaucoup, et j'aime beaucoup les mots. Et dans mon travail, c'est vraiment un travail très viscéral. Quand j'ai envie, ça devient très vite un besoin de faire un travail, quel que soit le médium, en gravure, peinture ou sculpture. Et c'est soit je fais ce travail parce que je ne peux pas faire autrement que de le faire, soit je vais lire un mot et ça va me faire penser à un travail et je vais faire ce travail après, ce travail de création. Et comment je choisis les mots ou comment les mots me choisissent, c'est souvent, presque toujours, un choix de mots d'ouverture. Si j'ai choisi de travailler dans l'abstraction depuis le début de mon travail en 2000, c'est parce que l'abstraction me laisse plus de liberté au moment de la création qu'un travail figuratif. Je ne suis pas contrainte ni dans mes gestes, ni dans mes tripes, par la figuration. Mais surtout aussi parce que ça laisse plus de liberté au spectateur de se projeter dans l'œuvre, de se projeter dans l'œuvre dans le temps. Mmh. Hein, et au fil de ses joies, de ses peines, de sa vie. Et donc, quand il y a un mot « tac », qui m'accroche, j'aime que ce mot, il continue ce travail de l'abstraction et qu'il il ne ferme pas parce que forcément il y a une projection qui est facile à faire, mais j'aime que les mots ne ferment pas vers cette projection figurative et au contraire ouvrent vers d'autres horizons. Donc ça peut être le son avec murmure, ça peut être la musique avec arpège ou avec tango. Voilà, j'aime quand ça peut être même philosophique avec grande âme.
Ce sont des titres,
d'œuvres
présentées.
Exactement.
D'accord. À quel âge avez-vous décidé de vous consacrer totalement à l'art?
Alors, en fait, je n'ai pas vraiment décidé. Quand je suis rentrée dans cet atelier à Paris, il y avait une porte qui était un peu ouverte. Je l'ai ouverte. Je suis rentrée, j'ai commencé mon expérience artistique à ce moment-là. Et chaque fois, ça a été un genre d'opportunité, une porte dans la vie qui s'ouvre et qui fait que, oui, on va rester cantonné dans sa vie ou alors on va aller par la curiosité, par envie de découvrir autre chose, envie de grandir. D'apprendre autre chose.
Et puis chaque fois, si j'ai bien compris, ça a été aussi la dynamique d'une rencontre.
Ben voilà. Ben oui, d'une rencontre, bien sûr.
Alors, un côté plus technique, est-ce que le fait d'avoir été ingénieur sert quelquefois dans le travail artistique?
Oui. Alors en fait, on me pose souvent la question. Et finalement, j'ai été autodidacte en art, en gravure, en peinture et en sculpture, parce que je n'ai jamais appris par la transmission.
Oui.
Et en fait, je comprends aujourd'hui, avec le recul, que finalement, mon bagage technique de mes études d'ingénieur me donne un bagage technique aussi pour appréhender la matière, que ce soit mes plaques de fer dans les bains d'acide nitrique, que ce soit l'évolution de la matière porcelaine en séchant, en cuisant, etc. Ou la peinture à l'huile avec son travail de matière aussi sur la peinture à l'huile. Et oui, en fait, je suis artiste aujourd'hui avec, même autodidacte, mais avec mon bagage d'ingénieur. Et finalement, je réalise que c'est comme quand j'ai appris à lire, à écrire et à compter. Eh ben, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre sur le monde, sur la physique, la chimie et la technique du monde. Et c'est vraiment, j'ai eu beaucoup de chance parce que, en fait, je suis née, comme je vous ai dit, à Uzès, dans une famille d'ouvriers. Parce que c'est l'école de la République qui m'a donné cette chance de pouvoir faire des études. En fait, le rêve de ma mère, puisque je travaillais bien à l'école, c'est que j'aille à Nîmes faire une école pour être secrétaire. Mmh. Et quand j'ai passé mon bac et que je lui dis, ben non, je pars à Toulouse faire une école d'ingénieur, c'était d'abord, même moi, je ne savais même pas trop ce que c'était, quoi.
Être ingénieur.
Mais non. Et donc c'est on a beaucoup de chance. Enfin, moi j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir apprendre tout ça grâce à l'école.
Est-ce que vous avez des admirations pour certains artistes?
Oui. J'ai deux artistes que j'ai découverts quand je vivais à Madrid d'ailleurs qui m'éblouissent. Le premier, c'est un artiste américain qui fait des sculptures monumentales et qui s'appelle Richard Serra.
Mmh. Et en fait, quand on vivait en Espagne, ben oui, on a essayé de découvrir le territoire espagnol. Et un jour, on est allé au musée Guggenheim de Bilbao. Et quand on est rentré dans cette salle, je savais pas du tout ce que j'allais y trouver. Et quand j'ai vu ces énormes pièces de Richard Serra, mais ça a été waouh, c'était je pleurais, je riais, c'était incroyable cette rencontre. Donc oui, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. J'aime son travail, mais de la même façon que je travaille avec mes tripes, mais je crois que j'aime aussi son travail avec mes tripes pareil quoi. Mmh. Voilà. Et le second artiste que j'ai aussi découvert en Espagne, là c'était à Madrid, dans le grand parc du centre de Madrid qui s'appelle le Retiro. Oui. Et il y a un jardin d'hiver, donc un espace couvert de tout en vitres. Et quand on a découvert ce jardin, il y avait une exposition des peintres les plus connus dans le monde. Et j'ai été saisie, encore une fois, par une peinture de Pierre Soulages. Et là, c'est pareil, cette profondeur de cette peinture, ce travail, cette essence même, hein, cette pureté de ce travail, ce minimalisme hein, qu'on retrouve aussi dans la sculpture de Richard Serra. Mmh. Voilà. Alors,
et ce noir que l'on retrouve dans vos sculptures, oui, est-ce que c'est un petit clin d'œil au noir de Soulages?
Alors, non. En fait, quand on commençait avec la gravure et la peinture, je n'ai jamais travaillé le noir. Je n'ai travaillé que la couleur, même si j'ai eu des couleurs très foncées, qui pouvaient être un prune, mais c'était, il y avait quand même du rouge. Donc, non. Quand j'ai travaillé la sculpture, ce qui m'a intéressée, c'est la troisième dimension, c'est la forme. Mmh. Et jusqu'à présent, j'avais travaillé le mouvement dans le plan, et là, j'accédais à la troisième dimension. Donc, c'est ça qui m'a intéressée. Et donc, c'est pour ça que dans mes sculptures, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'émail, etc. Et j'ai travaillé le blanc et le noir parce que c'était un peu la base. Mmh. Voilà. Ce qui m'a influencé de la peinture de Soulages, ça a été son minimalisme, aller à l'essentiel. Et c'est lui qui m'a attiré un peu par la main en me disant, il faut aller vers l'essentiel, c'est la force de la vie, mmh. en fait. Voilà.
Et effectivement, vos peintures sont extrêmement simples. Et voilà, simple et en même temps dense. Les commissaires de l'exposition ont prévu en parallèle à votre exposition deux performances, une le 27 mars de danse et de chant et une autre de lecture de haïku en musique le 13 avril. Et j'ai découvert que les haïkus, c'est vous qui les avez écrits.
Oui, je vous disais tout à l'heure que j'aimais les mots.
Alors, est-ce que vous voulez bien nous lire un haïku pour clôturer cet entretien?
Alors, j'ai envie de vous lire un haïku que j'ai écrit en espagnol et en français. Que vous en pensez? Oui, ça
va. Oui, mais oui.
Alors, ce haïku s'appelle... C'est une sculpture en porcelaine, s'appelle Masaya, ça veut dire plus loin, au-delà. Masaya del cielo, el universo. Luz del infinito, caligrafía de porcelana, tu historia, Masaya. En français, ça donne au-delà du ciel, l'univers. lumière de l'infini, calligraphie de porcelaine, ton histoire.
Merci.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Every single night I've seen you dancing.